Bonjour, donc je suis le docteur de Clermont, je suis MCUPH en médecine nucléaire. Et donc mon propos aujourd'hui, c'est de vous parler de la TEP-TDM avec le traceur qu'on utilise au quotidien, le 18FDG, mais aussi les autres traceurs qui ont déjà l'AMM en France. Donc on va voir d'abord de quoi on parle quand on demande une TEP. Ensuite, on verra les domaines d'application du 18FDG, donc du fluorodésoxyglucose hors cancérologie et dans le cadre de son AMM en France. Ensuite, on parlera de la TEP au 18FDG dans ses indications dans le cadre de l'AMM en oncologie, avant d'aborder les autres traceurs TEP ayant une AMM, et en particulier le 18FNA. Et puis, une petite conclusion. Donc aujourd'hui, de quoi parle-t-on quand on demande une TEP? Eh bien, d'une technique d'imagerie moléculaire qui va utiliser une caméra TEP-TDM, donc une caméra tomographie par émission de positons, associée à un scanner, avec un radiopharmaceutique. Et actuellement, quand on dit TEP, en fait, c'est le 18-fluorodésoxyglucose, qui en fait, ce traceur a eu un essor considérable en France, du fait, en France et dans le monde, du fait de son importance en cancérologie. Donc c'est un analogue du glucose qui va rentrer dans la cellule exactement comme le glucose, mais il y a une impasse métabolique et donc il ne va pas aller plus avant dans sa déphosphorylation. Et puis le domaine d'application, je vous ai dit, c'était le cancer. Et tout ça parce qu'on s'est aperçu, et donc des travaux anciens, 1958, remis au goût du jour en 87, qu'une cellule cancéreuse, eh bien, exprime plus les récepteurs GLUT1 et donc va capter beaucoup plus de glucose qu'une cellule normale. Et ça, à peu près 100 fois plus. Du coup, vous avez maintenant l'habitude de voir ce type d'image avec ici une concentration très intense du glucose chez un patient ayant un lymphome. Mais la TEP au 18FDG donc n'a pas simplement des domaines d'application en cancérologie. Et dans le cadre de son AMM, il y a deux indications en neurologie et en cardiologie. En neurologie, c'est le bilan préopératoire des épilepsies rebelles au traitement. Donc devant une épilepsie qui pourrait être chirurgicale, on va nous demander une TEP pour savoir s'il existe un seul foyer ou de multiples foyers responsables de l'épilepsie. Et est-ce que ces foyers sont dans une zone chirurgicalement accessible ou pas. Et donc sur cet exemple, on a ici un hypométabolisme, une diminution de la fixation du glucose dans la zone où il y a l'épilepsie. Donc on le retrouve ici sur les coupes transverses. Donc ça, c'est un examen qu'on nous demande maintenant de plus en plus pour souvent ces adultes jeunes qui ont des épilepsies rebelles au traitement. La deuxième indication pour laquelle la TEP au fluorodésoxyglucose a une indication ayant l'AMM, c'est en cardiologie. Et là, je vous montre simplement dans le cadre de la viabilité myocardique, avec ici un traceur qui va être un traceur de perfusion, donc avec une hypofixation donc de toute la paroi antérieure. Et le glucose, en fait, le métabolisme du glucose, pour la viabilité, c'est certainement le traceur qui a la plus grande sensibilité. Et donc on voit ici une fixation qui est tout à fait normale du myocarde avec le FDG, ce qui signe qu'il y a bien une viabilité myocardique persistante, donc paroi antérieure, mais aussi paroi antéroceptale. Donc du coup, nécessité où on peut revasculariser ce patient parce qu'il y a des cellules viables dans le territoire de l'infarctus. Donc ça, c'est les deux indications du FDG ayant l'AMM. Donc maintenant, on va passer à ce qui est fait notre quotidien en TEP aujourd'hui, dans le cadre de l'AMM en oncologie, avec les quatre indications actuelles de la TEP. La caractérisation d'une lésion, le bilan d'extension d'une tumeur, l'évaluation thérapeutique, ou la recherche de récidive, ou la restadification après découverte d'une récidive. Dans l'indication diagnostique, donc caractérisation d'un nodule pulmonaire isolé, centimétrique, donc ça c'est l'indication de l'AMM, avec ici une image qui montre un nodule pulmonaire qui a été découvert de façon systématique chez ce patient sur un scanner, avec les images TEP qui montrent un hypermétabolisme, et ici l'image de fusion entre l'image de scanner et l'image métabolique. Donc ça, c'est une indication qui est aujourd'hui tout à fait valide. Deuxième indication, donc c'est le bilan d'extension, c'est là où on fait le plus d'examens en TEP, avec ici un lymphome malano-Hodgkinien de haut grade, avec le bilan initial, qui montre à la fois, donc, certes, la fixation médiastinale correspondant à des allélopathies, mais également des nodules pulmonaires hypermétaboliques, des fixations hépatiques, donc de localisation secondaire hépatique, mais également des fixations osseuses. Et donc la TEP actuellement, dans les lymphomes malins non-Hodgkiniens de haut grade ou les Hodgkin, est tout à fait systématique. Toujours dans le bilan d'extension, les tumeurs solides, en particulier au premier rang desquelles vient le cancer du poumon non à petites cellules. Elle va permettre de vérifier donc que cette tumeur est hypermétabolique et de faire son bilan d'extension à distance et aussi localement et notamment au niveau ganglionnaire. Et ici, on a un ganglion homolatéral à la tumeur qui est hypermétabolique. Donc on va participer à la stadification du cancer du poumon et de d'autres tumeurs solides. Troisième indication, l'évaluation thérapeutique. Ici, toujours un lymphome malin non-Hodgkinien de haut grade. TEP initial avec un hypermétabolisme intense ganglionnaire, pulmonaire, sous-diaphragmatique. Et ce même patient, après 4 cures de chimiothérapie, avec une disparition de l'ensemble des foyers hypermétaboliques, simplement une petite fixation résiduelle, là où il y avait une énorme masse ganglionnaire fortement hypermétabolique. L'importance de la TEP aujourd'hui dans l'évaluation thérapeutique des lymphomes est majeure, et c'est le minimum résiduel qui est très important. Il faut savoir que ce patient, il avait une toute petite fixation résiduelle, et bien il a réévolué sur cette zone. Donc il faut absolument une négativation complète de la TEP pour dire que le patient est en réponse complète. Toujours dans l'évaluation thérapeutique, mais les thérapies ciblées. Alors, dans les tumeurs gastro-intestinales notamment, on a eu la thérapeutique avec le Glivec. Le problème, donc dans ça, c'est un examen initial avec une tumeur qui est importante abdominale, un hypermétabolisme intense avant le traitement. Ce qu'il y a, c'est que ces tumeurs-là, quand on les suivait de façon radiologique, eh bien, avec le traitement, elles augmentaient en taille. Donc on avait une impression de non-réponse. Alors qu'en fait, le 18-FDG montre qu'il y a une réponse totale de la fixation, de l'hypermétabolisme et une réponse à la thérapeutique. Donc c'est un élément aussi important, la TEP au 18-FDG, dans l'évaluation des thérapies ciblées. Quatrième volet de la TEP au 18-FDG, la recherche de récidive ou de restadification après découverte d'une récidive. Par exemple ici, un cancer de l'ovaire qui avait été traité, réascension du CA125, et on voit ici une petite fixation qui est en fait au niveau du dôme hépatique, qui correspond à la carcinose péritonéale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du dôme hépatique, la carcinose n'est pas sous forme de nodule, mais plutôt tapisse le foie. Et cet élément est extrêmement important pour rechercher où se situe la récidive. Donc, dans la recherche de récidive, la TEP sera indiquée. Deuxième exemple de recherche de récidive ou de restadification, cette patiente ayant un cancer du sein qui avait été traité, réascension du CA15-3, et on voit ici sur la TEP des foyers qui correspondent à des lésions secondaires hépatiques, mais également ganglionnaires médiastinales. Donc la TEP, dans ce cadre-là, va permettre d'identifier l'origine de la récidive et également son bilan d'extension, savoir où sont les différentes métastases et savoir est-ce qu'on peut faire une chirurgie locale ou alors est-ce qu'au contraire, il faut se relancer dans une chimiothérapie. Donc ça, ce sont les indications valides actuellement de la TEP au 18-FDG. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas simplement du fluorodésoxyglucose qui a l'AMM en France, et notamment depuis le mois de juin dernier, le FNA, le 18-fluoro fluorure de sodium, a une AMM. Alors, la TEP au fluoro de sodium, c'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas un nouveau traceur. Dès 62, on avait montré qu'il y avait une forte fixation de ce traceur au niveau de l'os. Et la FDA avait approuvé ce traceur en 1972. Ce qu'il y a, c'est que vous demandez au quotidien des scintigraphies osseuses, eh bien le MDP avait supplanté complètement ce traceur, parce que comme il n'y avait pas beaucoup de cyclotrons, il n'y avait pas beaucoup de caméras TEP, ce traceur était tombé complètement en désuétude. Du fait de la multiplication des cyclotrons et des TEP, eh bien ce traceur a retrouvé de l'intérêt, parce que le fluorure de sodium, sa fixation, c'est le reflet à la fois de l'hyperémie et du remodelage osseux, et sa fixation est deux fois plus élevée que celui des diphosphonates utilisés habituellement en scintigraphie osseuse. Donc du coup, c'est plus sensible et plus spécifique que les diphosphonates. Donc l'AMM du 6-NAF, c'est le produit qui a l'AMM en France, est particulièrement documenté pour les cancers de la prostate, du sein et du poumon. Mais en fait, il pourrait être utilisé dans toute pathologie, entraînant un remodelage osseux, y compris dans les pathologies rhumatologiques. Donc pour vous montrer la comparaison entre une scintigraphie osseuse et une TEP au 18FNA, voilà une scintigraphie osseuse classique chez un patient ayant un cancer de la prostate. En fait, on voit qu'ici, on a une petite fixation du sommet de la sacro-iliaque, une petite hétérogénéité rachidienne avec un renforcement cervical, latéro-cervical, et ce patient, on lui a fait une TEP au 18FNA. Donc voilà l'imagerie. Donc on a une imagerie 3D et extrêmement sensible. Et vous voyez que le tout petit foyer qui fixait très peu, ici on le voit de façon très évidente sur la TEP FNA. Alors ce qu'il faut savoir, je vous montre le scanner, l'imagerie de fusion. Donc le foyer très intense au sommet de la sacro-iliaque correspond en fait à un ostéophyte. Donc on dédouane complètement une lésion secondaire à ce niveau-là. Au niveau par contre d'une vertèbre, on ne voyait absolument rien. Et en fait, il y avait un foyer ici, vertébral. Ce foyer vertébral correspond sur l'image scanner à une petite zone ostéolytique avec une ostéocondensation périphérique. En fait, donc le FNA, c'est très sensible, mais ça reste non spécifique, exactement comme la scintigraphie osseuse. Et donc, devant cette imagerie, on a été faire une IRM, et l'IRM, en fait, il s'agit d'un angiome. Donc, ce n'est pas spécifique du cancer, c'est bien exactement comme la scintigraphie osseuse, mais c'est beaucoup plus sensible. Alors, quelques exemples pour poursuivre. Ici, à travers un cas clinique, un patient de 71 ans qui est suivi pour un cancer prostatique, métastatique osseux, et qui a été traité par chimiothérapie et hormonothérapie. Ce patient est mis en rémission complète. Donc, on fait une scintigraphie osseuse, elle est négative, et ce patient, du coup, pouvait bénéficier d'une radiothérapie complémentaire sur les aires ganglionnaires et sur sa loge prostatique. On a réalisé une TEP FNA et voici sa TEP. En fait, donc la scintigraphie osseuse était normale, mais ce patient était multimétastatique. Autre exemple, toujours de FNA, dans un cancer du sein avec des métastases ici qui sont ostéolytiques, et donc on les voit tout à fait bien en TEP FNA, donc c'est valable pour les métastases lytiques, alors que la scintigraphie osseuse, dans le cancer du sein, dans le cancer de la prostate et dans le cancer du poumon ou dans le cancer du rein, quand c'est des petites lésions ostéolytiques, on ne les voyait pas. Eh bien, le FNA, lui, de fait de sa sensibilité, les montre de façon beaucoup plus facile. Même chose pour des métastases d'un cancer du poumon, à la fois ostéocondensantes, mais aussi des petites métastases lytiques, eh bien, on l'identifie tout à fait bien. Donc, c'est un traceur qui, aujourd'hui, est disponible, et pour lequel on peut demander des examens. Alors surtout, si on fait un premier examen, une scintigraphie osseuse, elle est normale, alors qu'on a une forte suspicion ou un risque chez ce patient d'avoir des métastases, eh bien, on peut aller jusqu'à la TEP FNA. Alors aujourd'hui, donc, quand on disait TEP égale FDG et cancer. En fait, c'est vrai donc pour la cancérologie, mais c'est vrai aujourd'hui d'ores et déjà pour la neurologie et la cardiologie. Cela va l'être pour les maladies infectieuses, et donc l'exposé suivant, on va voir pourquoi est-ce que le FDG peut être utile dans le bilan des pathologies infectieuses. C'est vrai en rhumatologie, et il y aura certainement d'autres domaines, peut-être la sarcoïdose, peut-être les pathologies, et c'est déjà le cas, les artérites. Donc il y a d'autres domaines d'application de la TEP au FDG. Mais à côté du FDG, on a le FNA, donc le fluoro de sodium. On a aussi la fluorodopa, qui a une EMM en France. On va avoir la fluorocholine. La fluorocholine, donc on vous l'expliquera, c'est utilisé dans le cancer de la prostate, alors que le FDG ne marche pas dans le cancer de la prostate. La fluorotimidine, dans les traceurs de prolifération. Le F-miso pour les traceurs de l'hypoxie, et on fait actuellement des examens de l'hypoxie. Le ML10 pour... donc là, c'est un traceur qui est spécifique de l'apoptose, et donc les mises dès le début du traitement en apoptose, on va le voir. Mais aussi le MPPF, les bilans des sérotoninergiques, et bien d'autres. Aujourd'hui, on a le fluor 18, mais demain, on va avoir le gallium 68, pardon. On va avoir le cuivre 64, donc c'est tous des traceurs de positons, le iode 124, et donc ce qui est vrai aujourd'hui, la TEP égale FDG et cancer, n'est plus vrai aujourd'hui et ne le sera plus demain, et ça devrait devenir un excellent millésime. Je vous remercie. Alors, moi je ne suis pas spécialiste en cardiologie. C'est vrai que l'avantage, mais je laisserai Éric Bullier en parler, l'avantage par rapport aux traceurs techniciens, c'est certainement la courte période, la réalisation possible d'examens associés qui associent éventuellement un coroscan avec le traceur métabolique. Mais je laisse Éric Bullier qui est plus orienté cardiologie que moi.
Pour ce qui est de la TEP au 18 FDG pour rechercher la viabilité myocardique, en fait, il s'agit de patients qui, sur une scintigraphie au thallium ou alors avec d'autres traceurs techniciens, mais des traceurs de perfusion, chez ces patients-là, on a une hypofixation qui persiste au stress et au repos, ce qui équivaut à une nécrose myocardique. Et dans ce cas de figure-là, si on a une thrombose coronaire connue, on peut poser l'indication d'une recherche de viabilité qui pourra se faire par une TEP au 18 FDG pour voir si malgré la persistance de cette hypofixation en perfusion, il reste des cellules myocardiques vivantes, viables, hibernantes, dans la zone supposée nécrosée. Donc ça, la TEP au 18 FDG dans ce cas-là peut venir en complément d'une scintigraphie de perfusion.
Un bref commentaire en tant que cardiologue, on est particulièrement intéressé sur l'aspect recherche parce que la caméra à positron nous permet une analyse quantitative des flux de perfusion dans le myocarde que ne permet pas de manière très simple la scintigraphie actuellement avec des traceurs particuliers, je ne vais pas m'étendre, mais on peut obtenir des débits par gramme de tissu perfusé. Ça c'est absolument fondamental. Donc c'est un outil de recherche fabuleux et c'est un outil d'évaluation effectivement pour les capacités de récupération du myocarde après pontage ou angioplastie. Et nos collègues américains, je les recite encore, s'en servent, je dirais, quotidiennement.
Non, il n'y en a aucune. Aucune. Il n'y a pas non plus de réaction allergique, c'est des doses infinitésimales, c'est vraiment l'avantage de la médecine nucléaire. Il n'y a pas de néphrotoxicité. Donc on n'a pas les mêmes problèmes que les examens radiologiques conventionnels. En fait, actuellement, donc les premières images qui ont été faites, effectivement, on avait une impression d'augmentation de la masse tumorale, mais en fait, donc les radiologues ont rajouté des petits signes, et donc je vous avais marqué au sein de l'image, il y avait les unités Hausfeld, et en fait, on voyait qu'il y avait une diminution de la densité de la lésion, et en fait il y a des septas à l'intérieur, elle devient complètement kystique liée aux thérapies ciblées, et donc le bourgeon tumoral, lui, au contraire, diminue. Et donc dans les critères actuels d'interprétation, il n'y a plus simplement des critères de taille, et donc le RESIST qui est actuellement et le conventionnel en radiologie conventionnelle pour la mesure d'évaluation des cibles en fait va faire l'objet de modifications et on va tenir compte effectivement de la densité et d'un certain nombre de petits critères notamment de perfusion et puis ils associent aussi maintenant non seulement sur le scanner mais aussi sur l'IRM des séquences particulières pour justement essayer d'être plus performant pour ces thérapies ciblées. Et donc c'était un effet en fait d'augmentation de taille, mais de disparition des cellules tumorales elles-mêmes. Alors dans les indications, c'est vrai que je n'ai pas balayé l'ensemble des indications, Mais il y a des cancers qui fixent le FDG et il y a des cancers ne fixent pas le FDG, qui n'ont pas d'hypermétabolisme glucidique. Le cancer du rein fait partie de ces cancers et simplement 60% des cancers du rein fixent le FDG. Donc du coup, on réserve la TEP dans le cancer du rein à des patients qui sont métastatiques, pour lesquels on a engagé des traitements, et notamment par anti-angiogénique, où on a une réduction de la masse tumorale, et où on va se retrouver à avoir plus qu'une seule ou deux métastases qui sont éventuellement chirurgicales. Et à ce moment-là, on demandera la TEP. La TEP pour voir si est-ce que ces foyers, donc on sait qu'ils sont métastatiques fixes, et à ce moment-là, on pourra tenir compte de la TEP pour l'évaluation, est-ce qu'il n'y aurait pas de contre-indication s'il y avait des métastases, autres métastases qui seraient méconnues sur l'imagerie conventionnelle. Par contre, si elle est négative, on ne tient pas compte de la TEP et on agit exactement comme si on ne l'avait pas réalisé. C'est pour ça qu'on ne fait pas, dans le cancer du sein, dans le cancer du rein, de TEP initiale. Il y a des traceurs, et notamment un anticorps qui est spécifique pour le cancer du rein, de la carboxyanhydrase 9, et qui marche très bien, marqué à l'iode-124, qui marche et qui pourrait caractériser les cancers du rein. Mais pour le moment, effectivement, le FDG, ça ne marche pas. Dans le cancer thyroïdien, c'est comme dans les tumeurs neuroendocrines, c'est un cancer qui est très différencié. Donc à partir du moment où c'est différencié, il va fixer l'iode, 131, et il ne va pas fixer le FDG. Par contre, quand vous avez un patient qui a eu un cancer de la thyroïde, qui a une augmentation de la thyroglobuline, et pour lequel la cartographie totale, quand on a lui administré 100 millicuries d'iode 131, est négative, à ce moment-là, on a le droit de faire une TEP au FDG, parce que c'est qu'en fait, il y a une dédifférenciation cellulaire, et il va y avoir une fixation du FDG au niveau des métastases. Donc là, c'est deux cas, tout comme le cancer de la prostate, hein, donc il y a plusieurs cas, il y a plusieurs cancers qui ne sont pas intéressants à FDG. Et c'est pour ça aussi qu'on développe d'autres traceurs, parce que tout ne marche pas avec le fluorodésoxyglucose. L'inconvénient aussi du fluorodésoxyglucose, c'est que c'est un traceur qui n'est pas spécifique, et si on peut l'utiliser en infectiologie, c'est donc aussi que ça marche dès qu'il y a une inflammation, dès qu'il y a une infection, et quelquefois il est difficile de faire la part entre cancer, pas cancer.
Oui, je vais surtout reprendre des éléments qu'a déjà mis en place mon collègue Henri de Clermont. Donc mon plan est simple et je reprends les nouvelles indications de la TEP au 18FDG. Ensuite, je vous parle des traceurs bientôt disponibles et je vais vous parler un tout petit peu, très brièvement, de quantification. Donc dans les nouvelles indications de la TEP au 18FDG, il y a deux volets. Le premier, c'est la définition des volumes cibles en radiothérapie. Le deuxième volet, ce sont les processus inflammatoires et infectieux. Alors, sur le deuxième volet, ces processus inflammatoires et infectieux, nous gênaient en TEP au 18FDG oncologique, parce qu'ils sont source de faux positifs. Et bien maintenant, dans ces nouvelles indications, ils prennent leur part du gâteau et on développera ces aspects-là. J'en profite pour glisser ici les fixations habituelles, comme la fixation myocardique, qui est en général inconstante, mais qu'on essaie de travailler pour qu'elle soit constante, et ce sera l'objet de l'exposé suivant d'Éric Bullier. Alors, juste des illustrations. Pourquoi la TEP au 18FDG est intéressante pour définir les volumes cibles en radiothérapie? On va le comprendre avec ce seul exemple. Vous savez que maintenant, les appareils de radiothérapie sont très, très fins en matière de résolution spatiale. Donc, chez ce patient qui présente une atélectasie au niveau de son poumon gauche, il est clair que le scanner à rayon X n'est pas capable de nous dire où est la tumeur à l'origine de cette atélectasie et quelle place elle prend, quelle est la proportion de volume qu'elle prend au sein de cette atélectasie. Et donc, on voit de suite avec une fusion d'images, telles qu'on les a habituellement en TEP au 18FDG, on voit de suite que la tumeur se situe là, alors qu'ici, c'est simplement de l'atélectasie. Et également, on voit ici un petit point qui nous signale qu'il y a un ganglion en 10G. Et donc, il est inutile que le radiothérapeute irradie tout ce volume. Il concentrera ses faisceaux sur ces deux éléments-là. Donc, voilà, de façon simple, illustrer la puissance de la technique. En ce qui concerne le deuxième volet, infection, inflammation, je vais simplement vous donner quelques exemples. Donc infection, pied diabétique, prothèse, évaluation de sepsis autour de prothèse, voire pacemaker. Donc, juste ici, deux exemples d'infections autour de prothèses. Donc, ici, le scanner, ici, la tête native, ici, la fusion d'image pour une épaule, pour un genou. Et vous n'avez pas besoin d'être médecin nucléaire pour comprendre qu'il se passe quelque chose autour de ces prothèses, aussi bien en tête native qu'en tête fusionnée. Les vascularites, Horton, Takayasu, ici une vascularite de Horton, donc sur ce qu'on appelle un MIP qui tourne d'habitude, mais là c'est peut-être pas la peine de le faire tourner, on trouve donc une fixation des vaisseaux susclaviculaires, hein, également de l'aorte abdominale, l'aorte thoracique on ne la voit pas, mais sa paroi fixe aussi, elle est cachée en fait par l'ensemble du médiastin. Donc attention, ici ce sont les deux reins, les uretères et la vessie, ce sont des fixations habituelles. Donc ce qui est intéressant à regarder ici, c'est l'aorte abdominale et les vaisseaux susclaviculaires. La sarcoïdose, Henri en a parlé, et vous avez compris qu'en oncologie, la TEP au 18FDG est très intéressante pour suivre, pour diagnostiquer d'une part, et également suivre l'effet d'un traitement. Donc ici vous avez une sarcoïdose avant et après traitement. Alors sachez qu'on peut travailler sur la sarcoïdose en 18FDG, mais on peut introduire d'ores et déjà l'intérêt d'un nouveau traceur, le gallium 68 sous forme de citrate, qui était d'ailleurs auparavant utilisé en tant que gallium 67, mais qui était relativement irradiant, qui a été mis de côté avec l'arrivée de la TEP. Et donc on va revoir cet élément chimique, mais cette fois-ci radioactif, émetteur de positons, avec une dosimétrie plus favorable. Il est clair aussi que dans le cadre d'une fièvre inexpliquée, là, les fixations non spécifiques de 18FDG deviennent un avantage. Et enfin, vous terminerez de vous-même l'exposer avec les maladies inflammatoires intestinales, Crohn en particulier, qui vont aussi bénéficier de la TEP au 18FDG lorsqu'il y aura beaucoup plus de place disponible sur nos machines actuellement. Donc, deuxième partie, les traceurs bientôt disponibles. Donc, Henri vous a déjà listé pas mal de choses, quasiment toutes les choses, et donc je vais simplement donner quelques détails supplémentaires. Et donc, moi, dans ce court exposé, je vais distinguer d'une part les nouveaux traceurs marqués au 18FDG, des nouveaux traceurs marqués, par exemple, au gallium 68. Donc un traceur, c'est une molécule à laquelle on attache un marqueur. Et le marqueur pour ce traceur, la 18F choline par exemple, l'ensemble constitue le traceur et elle est marquée en fluor 18. Donc 18F choline, traceur de la production de membranes cellulaires, 18FLT, traceur de la prolifération cellulaire, 18F dopa, traceur de la synthèse des catécholamines et de la sérotonine, 18F miso, entre parenthèses, 18F asa, traceur de l'hypoxie. J'en passe, en 2008, j'avais regardé la littérature, il y avait 1400 molécules pressenties pour être utilisées. Donc, il faut faire un choix. Donc, on vous parle des traceurs bientôt disponibles. Alors, j'en passe pas mal, et il y a toujours un petit préféré dans ce genre de choses, la petite touche personnelle. Henri l'a cité parce qu'il est impliqué là-dedans, et tout le monde est tout à fait intéressé par le devenir de cet ML10 marqué au fluor 18, traceur de l'apoptose. Donc, quelques illustrations. 18F choline, intéressant dans l'augmentation du taux de PSA après traitement ou dans le bilan d'extension des cancers à haut risque. Donc ici, vous avez le scanner à rayon X. Ici, la TEP au 18FDG, la TEP à la 18F choline. Vous reconnaissez la TEP au 18FDG parce que 18FDG se fixe au niveau du cerveau. Donc sur cette image, on voit bien qu'il y a une très probable localisation secondaire au niveau d'un corps vertébral. Lorsqu'on passe à la 18F choline, on retrouve évidemment de façon plus intense cette fixation, mais on en trouve sur d'autres vertèbres, on en trouve ici, ici, ici. Donc vous comprenez avec ce seul exemple l'augmentation de sensibilité de la technique lorsqu'on utilise un autre traceur plus spécifique et plus sensible. En ce qui concerne la 18FLT, donc vous trouverez cet exemple dans le document qui vous est remis, donc qui fait l'objet d'une investigation ici à Bordeaux dans la définition des volumes des gliomes malins infiltrants. 18F miso, dans laquelle est impliqué Henri de Clermont pour évaluer l'hypoxie dans les cancers épidermoïdes des VADS, des voies aérodigestives supérieures. Donc, juste une petite remarque. Vous voyez qu'on compare 18FDG, et vous l'avez vu avec 18F colline, on le reprend ici, 18FDG par rapport à 18F miso. Simplement pour vous dire que le 18FDG a été une molécule gagnante dès le départ. Et ce n'est pas demain qu'elle va être remplacée. Voilà. Donc, il faut toujours avoir en tête que... il est peu probable que le 18FDG soit mis au rancard par une autre molécule. Hein. Donc ça, c'était pour les molécules marquées avec du fluor 18. Il existe d'autres marqueurs possibles, c'est-à-dire d'autres émetteurs de positons qu'on peut attacher à une molécule vectrice qui va aller se fixer sur un tissu possédant une fonction particulière. Donc je distingue parmi ces marqueurs émetteurs de positons ces quatre premiers parce qu'ils sont fournis par des accélérateurs de particules, des cyclotrons, des deux autres qu'on peut avoir à disposition via un générateur. Alors on va d'abord regarder ceux-là. Donc je reprends le fluor 18 et je mets une croix sur les trois autres disponibles, carbone 11, azote 13, oxygène 15. C'est volontaire, c'est une volonté de simplifier. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsqu'on regarde la période du fluor 18, la période, c'est le temps au bout duquel la moitié de ce qu'on a produit a disparu. En 110 minutes, en 2 heures, ce qui a été produit à l'instant T dans le cyclotron, on en a perdu la moitié. Donc, regardez le carbone 11, période 20 minutes. Regardez l'oxygène 15, période 2 minutes. Donc on comprend que dans l'avenir, l'industriel souhaitera plutôt développer des choses qui lui ramènent de l'argent et qui ne partent pas en fumée pour échauffer la planète. Donc c'est pour ça que, de mon point de vue, retenez parmi les émetteurs de positons le fluor 18. Et d'ailleurs, les exemples que je vous ai donnés sur les nouveaux marqueurs côté cyclotron sont des marqueurs qui sont, pardon, des traceurs marqués au fluor 18. Donc, deuxième possibilité, c'est d'accrocher un émetteur de positons produit par un générateur. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir un générateur à la maison? C'est avoir une espèce de grosse valise qui nous est livrée régulièrement et à partir duquel un émetteur radioactif va nous produire un autre émetteur qui, lui, est émetteur de positons. Donc, on a une source disponible à la maison et ça, c'est très intéressant pour nous. Donc, parmi ces deux émetteurs de positons issus d'une filiation radioactive, j'ai surtout entouré le couple germanium-gallium. Germanium parce que sa demi-vie est de 275 jours. Donc la valise, on va la garder longtemps à la maison. Et le gallium 68 qui est produit a une demi-vie de 68 minutes. Certes, c'est moins que les 110 minutes du fluor 18, mais c'est bien mieux que le carbone 11. Alors par rapport à ça, vous avez aussi, on ne peut pas ne pas citer le couple strontium-rubidium parce que le rubidium, bien qu'il ait une période courte, est très intéressant. Et je pense qu'Eric vous en parlera. Au niveau de la cardiologie nucléaire. Donc les petites illustrations que j'ai choisies dans les diapos suivantes sont des illustrations relatives au gallium 68. On sait marquer plusieurs peptides avec du gallium 68. Dotatoc, dotatate, dotanox, et puis j'ai mis des points de suspension parce que d'ici à ce que je finisse ma phrase, il y a encore une molécule qui va sortir. C'est clair. Ce sont des molécules très utiles pour caractériser les tumeurs neuroendocrines. À côté de la 18F dopa. Alors ici un exemple qui est à la fois intéressant mais également avec un petit biais dans l'interprétation où on compare les résultats d'une TEP en 18F dopa avec les résultats d'une TEP en dotanoc marqué au gallium 68. Il est clair qu'on visualise essentiellement ici qu'une seule lésion alors qu'en dotanoc marqué au gallium 68 on en visualise beaucoup plus au niveau du foie, peut-être même au niveau du poumon et en région du duodéno pancréatique. Alors, je dis qu'elle est un tout petit peu trompeuse. D'abord, elle montre que cette molécule est particulièrement intéressante pour la pathologie du patient, mais c'est un tout petit peu trompeur parce que quand on gratte un peu, on sait que la 18F dopa pourra être toujours intéressante sur d'autres indications. Mais ce qu'il y a de certain là-dedans, c'est que par rapport à ces techniques, donc ces molécules marquées au gallium 68 ou la fluoro dopa, actuellement, on ne dispose en médecine nucléaire conventionnelle, donc non pas en TEP, actuellement en médecine nucléaire conventionnelle, on dispose uniquement de l'octréoscan. Et on peut dire que lorsque ces nouvelles molécules émetteurs de positons, émettrices de positons seront disponibles, je crois qu'on pourra assister à la fin de vie de l'octréoscan qui a néanmoins nous aura énormément servi. Juste là, une ligne pour rappeler l'intérêt du gallium, le sel de gallium pour la sarcoïdose. La quantification. Faire de l'imagerie moléculaire, et la TEP est une technique d'imagerie moléculaire, doit aboutir aussi, à côté des données qualitatives, à des données quantitatives. Henri vous en a parlé, le professeur Coste également, Eric vous en parlera. L'exemple de la TEP au 18FDG, quantifier l'hypermétabolisme glucidique d'une tumeur, c'est être capable de différencier malin bénin, établir le pronostic du cancer, évaluer les réponses thérapeutiques, évaluer les récurrences. Donc c'est important. Le paramètre quantitatif, qui est en fait un paramètre semi-quantitatif le plus utilisé, c'est le SUV, pour Standard Uptake Value. Il est très simple à obtenir sur les machines. On l'a immédiatement, et cela quel que soit le traceur. Mais attention, il nécessite une interprétation en fonction du contexte. Il ne faut pas foncer tête baissée sur le chiffre qui nous est donné. Juste deux exemples pour illustrer cette prudence dans l'interprétation quantitative de nos données. D'abord, il a une signification différente selon le traceur. Le SUV en TEP positif FDG, c'est être capable de quantifier l'hypermétabolisme glucidique d'une tumeur. En TEP au Dotanox gallium 68, qu'est-ce que ça veut dire un SUV? Mais ça vous quantifie le nombre de récepteurs à la somatostatine qui existent par unité de volume de la tumeur. Donc ce n'est pas la même signification. Autre exemple d'interprétation prudente qu'on doit avoir, c'est que comme toute donnée chiffrée, elle est entachée d'incertitudes de mesure. Donc ça, c'est important. On n'a pas le droit de donner le résultat d'une mesure sans donner une incertitude. C'est quelque chose qui est difficile à faire passer en médecine, mais pourtant, il faudra que ça passe. Un dernier petit item, le cas particulier des analyses cinétiques. Sachez qu'on a sous le coude des outils plus puissants que le SUV. On pourra donner dans l'avenir des taux de captation de la molécule par le tissu considéré, des taux de relargage, et même en donnant ça, on peut avoir une idée de la perfusion. Donc ces analyses cinétiques sont très puissantes. Acquisition lourde, coûteuse en temps, donc de mon point de vue, elles seront réservées évidemment à l'hôpital et pour des patients choisis. Donc, sur cet exposé-là, si vous aviez seulement trois choses à retenir, nouvelles indications de la TEP positive FDG, infection, inflammation, première chose. Deuxième chose, très nombreux traceurs bientôt disponibles. Soit marqué avec du fluor 18, soit au gallium 68. Troisième chose, la quantification en TEP par le SUV, dont la signification dépend du traceur, nécessite une interprétation. Attention, il y a des incertitudes de mesure. Si vous avez retenu ces trois choses, vous avez retenu l'essentiel de cet exposé. Merci. Dépend du traceur en 18 FDG, tout compris en comptant aussi l'irradiation due au scanner à rayon X qui est pratiqué pour pouvoir faire une fusion d'images et également pour mieux calculer les images TEP, au maximum on est à 15 millisieverts, au maximum. Alors si on regarde le délai d'obtention entre, on va faire une moyenne, de façon la moyenne elle est vite faite, entre Bergonier et, puisque Bergonier dispose d'une TEP également, et ici, on est à 15 jours, 3 semaines. Alors c'est vrai que c'est un peu fluctuant dans l'année, il y a des vagues de demandes, voilà. Mais bon, on s'arrange toujours, on a des plages d'urgence et on s'arrange toujours dans la mesure du possible pour trouver des places d'urgence pour les patients et d'ailleurs entre les deux sites. Voilà.
Ouais, donc moi je vais vous parler de scintigraphie myocardique. Donc on va laisser de côté la tomographie par émission de positons. Donc dans un premier temps, en fait, je vais situer les choses dans leur contexte. Donc en parlant de la scintigraphie de perfusion myocardique, à la prise en charge des coronaryopathies stables. Ensuite, je parlerai de cette révolution technologique et pour nous, donc l'arrivée des caméras semi-conducteurs pour montrer ce que ça permet de changer dans la pratique. Alors, la scintigraphie de perfusion myocardique, c'est un examen qui a une certaine ancienneté et qui a une valeur pronostique qui a été établie sur des milliers, voire des dizaines de milliers de patients dans la littérature. Et donc il a clairement été montré que le pronostic d'un patient était lié à l'extension de l'hypoperfusion en scintigraphie. Donc ici, c'est une étude sur 1100 patients non coronariens connus qui ont été suivis pendant 6 à 7 ans. Et on voit clairement que selon les résultats de la scintigraphie de départ, on a une survie sans événement cardiaque qui dépend de l'extension de l'hypoperfusion de départ. Donc, ensuite, en 2003, là on est en 99, en 2003, une autre étude avec 10 000 patients qui retrouve ce lien entre l'étendue de l'ischémie vue en scintigraphie et la mortalité cardiovasculaire. Donc ça, c'était la même chose qu'avant. Ce qui est intéressant à voir ici, c'est que on peut quantifier la masse de myocarde ischémié et que cette étude d'Achamovitz a montré que en dessous de 10% de masse myocardique ischémique, le patient ne va pas forcément tirer bénéfice d'une revascularisation. En revanche, au-delà de 10% de masse myocardique ischémique, une revascularisation va significativement diminuer la mortalité d'origine cardiaque, donc chez les patients coronariens. Donc on a un outil diagnostique qui a une valeur donc pronostique importante et qui permet de choisir la prise en charge d'un patient. Encore une autre étude, donc là on est en 2008, donc on retrouve dans cette étude-là, qui est le sous-groupe nucléaire de l'étude Courage, où on retrouve également que les patients qui vont tirer bénéfice d'une revascularisation sont ceux qui ont une masse myocardique ischémique de plus de 10%. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'en fait, ils ont fait des scintigraphies avant la prise en charge des patients, une scintigraphie de départ, et ensuite une scintigraphie entre 6 et 18 mois de traitement. Et c'est ce qui est montré sur cette illustration, c'est qu'en fait, l'enjeu majeur, c'est d'arriver à une négativation de la scintigraphie. En fait, une diminution de l'ischémie sur la scintigraphie sera corrélée à un taux d'événement cardiovasculaire quasi nul lorsqu'il n'y a pas d'ischémie résiduelle. En revanche, plus l'ischémie résiduelle est importante, plus la survie sans événement cardiaque diminue. Donc ça, c'était pour remettre les choses dans leur contexte. Alors, classiquement, il nous est volontiers reproché, à nous, médecins nucléaires, de faire des examens soit irradiants, des examens longs, des examens avec de multiples artefacts, qui soient d'origine digestive, des artefacts d'atténuation, des artefacts positionnels. Enfin, je vais rebondir sur chacun de ces points-là, en parlant de l'arrivée des caméras semi-conducteurs. Alors, en scintigraphie, donc ça c'est un exemple de caméra classique, le patient, en l'occurrence le myocarde, va émettre des rayonnements gamma, puisqu'on a injecté un traceur qui va émettre des rayonnements gamma. Ces rayons vont interagir dans un cristal, ils vont scintiller, d'où le nom de scintigraphie. Ensuite, cette scintillation va être transformée en signal électrique pour donner une image, avec une résolution spatiale qui n'est pas forcément optimale. Ce qui a changé, c'est l'arrivée de semi-conducteurs. Donc, les semi-conducteurs, ça fait longtemps que ça existe, mais c'est depuis très peu de temps qu'on peut les utiliser dans les caméras de médecine nucléaire. Le principe est le même, si ce n'est que le photon gamma est directement transformé en signal électrique. Ce que ça change, c'est que la sensibilité de la machine est 4 à 7 fois supérieure, donc ça fait des acquisitions beaucoup plus rapides. La résolution en énergie est 1,65 fois supérieure, donc ça fait des images de meilleure qualité. La résolution spatiale est augmentée environ d'un facteur 2. Alors tout ça, c'est très technique, très théorique, mais je vais vous montrer ce que ça change pour nous dans la pratique. Ça, c'est juste une illustration pour montrer la caméra qu'on utilise à Olévêque, où ici, vous avez représenté le cœur, et tout autour du cœur, dans ce bras qui correspond à ça sur la machine, dans ce bras, en fait, il y a 19 détecteurs qui vont dégager le cœur dans les trois plans de l'espace. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une acquisition qui est d'emblée tridimensionnelle. On n'est pas dans le cas d'une succession de coupes, comme on peut trouver dans les autres modalités d'imagerie, mais l'acquisition est d'emblée tridimensionnelle, voire en quatre dimensions, si on tient compte de la synchronisation à l'électrocardiogramme. Alors en médecine nucléaire, ça c'est vrai pour la médecine nucléaire conventionnelle comme pour la TEP d'ailleurs, la qualité des images dépend de la dose injectée, Plus on injecte de traceurs, meilleure sera l'image. Évidemment, il y a une irradiation qui peut ne plus être significative, qui peut être significative. Ou alors, plus l'acquisition dure longtemps, plus on a de signal qui rentre dans la caméra, meilleure sera l'image. Avec ces nouvelles machines, c'est que si on maintient la même dose de traceurs ou la même durée d'acquisition, on aura des images d'une qualité largement supérieure. Ou bien, on peut choisir de privilégier une diminution de l'irradiation, une diminution de la dose injectée, ou encore faire des examens très rapides en gardant la même qualité et la même dose injectée. Donc évidemment, dans la pratique, on fait un compromis entre une amélioration de la qualité des images, une diminution de l'irradiation et des acquisitions plus rapides. Alors la préoccupation des personnes qui ont validé ces nouvelles caméras était surtout d'aller plus vite. C'était pas spécialement d'irradier moins, ni d'avoir des images meilleures, mais c'était de dire on va garder la même qualité d'image et on va aller beaucoup plus vite. Donc pour des acquisitions de stress et de repos qui duraient 12 et 14 minutes, dans cette étude-là, ils ont montré qu'on avait de très bonnes images, voire même de meilleure qualité, avec des acquisitions qui duraient 2 et 4 minutes. Dans cette étude-là, donc ils sont descendus jusqu'à 2 et 3 minutes. Bon, et dans cette dernière étude de Berman, en fait, ils ont fait des acquisitions qui duraient 25 minutes, mais tout compris, l'acquisition de stress, de repos, avec le stress lui-même compris dans cette durée d'acquisition. Donc ça va beaucoup plus vite. Donc nous, à Olévêque en routine, on fait des acquisitions de 7 et 4 minutes. Donc bien sûr, ça augmente le confort du patient, c'est une chose. Ça augmente aussi le confort du médecin, on peut faire plus d'examens. Voilà. Mais surtout, puisque la durée est plus courte, il y aura moins de mouvements. Donc dans tous les examens d'imagerie, et évidemment plus ils sont longs, plus ça se présente, on va être gêné par les mouvements du patient. Donc dans ce cas-là, moins de mouvements, moins de problèmes, moins d'artefacts techniques. Et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, la scintigraphie pourrait souffrir de certains artefacts. Et en fait, avec des examens rapides, on peut sans problème refaire une acquisition si c'est nécessaire. On n'est plus à rajouter 15 minutes d'acquisition, juste 2 minutes. Et donc, les choses deviennent beaucoup plus simples. Donc ça, c'est juste un exemple donc, de scintigraphie myocardique. C'est une scintigraphie de repos. C'est le même patient, ici sur une caméra classique, en bas sur une caméra semi-conducteur. Donc dans les deux cas, la perfusion est normale. Ici, vous avez les coupes petit axe qui passent de l'apex de la partie médiane à la base du cœur. Ici, les grands axes horizontales, là, le grand axe vertical. Dans les deux cas, la perfusion est normale. Bon, ici, on peut remarquer qu'on voit mieux la cavité cardiaque se dessiner. Bon, c'est plus esthétique qu'autre chose. La différence entre les deux, c'est qu'on a une durée d'acquisition qui est divisée par 5. Alors, concrètement, à quoi ça peut servir? Bien, c'est l'exemple de ce patient qui a ici donc une première acquisition de stress sur une caméra semi-conducteur. On voit une hétérogénéité de perfusion myocardique sur ses coupes petit axe, et on voit que la cavité cardiaque, en fait, est déformée. Il s'agit d'un simple artefact de mouvement, et plutôt que de conclure en disant qu'il s'agit peut-être de ci ou de ça, on refait une acquisition qui ne prend que 2 minutes et on peut clairement dire, oui, la perfusion est tout à fait normale. Un autre exemple, autre artefact classique, qui est l'atténuation inférieure. On le sait, quand on regarde le cœur, il est déposé sur le diaphragme, donc ça concerne volontiers les patients en surpoids. La paroi inférieure sera mal visualisée. Et donc, c'est l'exemple de ce patient. Ici, une acquisition sur une caméra semi-conducteur en position dorsale. Il y a une hypofixation de la paroi inférieure. Donc, de là à dire il s'agit peut-être d'une hypofixation, il suffit de faire une acquisition au ventral qui ne prend que quelques minutes pour affirmer formellement que la perfusion est tout à fait normale. Alors, autre point intéressant sur cette machine, c'est que on arrive souvent mieux à dégager les fixations digestives. Donc, en scintigraphie de perfusion myocardique, on injecte un traceur qui va se fixer dans le myocarde et qui souvent peut aller se fixer notamment dans le foie, ce qui va gêner la réalisation des images. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est ce que voit la machine, c'est-à-dire que vous avez les 19 détecteurs, ce que voit chacun des détecteurs. Donc ça, c'est une acquisition sur fantôme, c'est pas sur un patient. Et donc ça, c'est l'image correspondante qui est normale avec une petite fixation apicale. On s'est amusé à mimer une fixation digestive avec un gros point chaud myocardique. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que du fait de cette acquisition tridimensionnelle, la caméra ici arrive à dégager le cœur de cette fixation digestive, ce qui fait qu'elle n'est pas du tout gênée pour reconstruire le myocarde et qu'on se retrouve, malgré ce point chaud digestif, à une fixation tout à fait normale. Alors après, pour ce qui est de l'amélioration de la qualité des images, je montrerai juste cet exemple qui est un patient coronarien qui a une nécrose de la paroi inférieure qui est connue et qui a une sténose de l'artère interventriculaire antérieure connue. Et donc l'indication de l'examen, ici sur une caméra classique et là sur une caméra semi-conducteur, c'est d'évaluer le retentissement fonctionnel de cette sténose de l'IVA. Sur la caméra classique, il y a juste une toute petite atténuation antérieure, en sachant que ça c'est des images de stress et que le repos correspondant est normal en antérieur. Et que sur la caméra semi-conducteur, on voit une hypoperfusion qui est bien plus importante. Alors, un dernier point pour parler de la synchronisation à l'ECG. Donc, que ce soit sur les caméras semi-conducteurs ou sur les caméras conventionnelles, les scintigraphies sont synchronisées à l'ECG, ce qui permet de décomposer la fixation qu'on a en fonction du cycle cardiaque. Et ensuite, on utilise des logiciels qui vont contourer les volumes pour arriver à voir des fractions d'éjection. Et ça sert surtout en fait à bien voir au cours du cycle cardiaque la cinétique, le mouvement de chacune des parois et leur épaississement. Donc actuellement, nous sommes en train de recueillir un certain nombre de données de patients pour voir si, avec la meilleure résolution spatiale de ces machines, on arrive à améliorer ces performances de cinétique. Et je terminerai juste avec un dernier point, qui je pense le plus important, si on doit retenir une seule chose de mon exposé, c'est la diminution de l'irradiation. Donc l'irradiation, évidemment, c'est très à la mode, enfin plutôt éviter l'irradiation, c'est quelque chose qui paraît évident aujourd'hui. Alors, avant, on faisait beaucoup de scintigraphies avec du thallium-201, qui est un traceur qui a un certain nombre d'avantages. Mais aujourd'hui, on utilise des traceurs marqués au technétium, qui sont le MIBI et le MioView, et donc qui, entre autres avantages, ont une irradiation qui est largement inférieure à celle du thallium-201. Aujourd'hui, en routine, on peut injecter des doses pour les scintigraphies de stress et de repos qui sont de 260, voire 770 mégabecquerels. Concrètement, ça veut dire qu'on peut, pour avoir une irradiation de 1,8 et 4,6 millisieverts pour un examen complet. En sachant que si la question posée n'est pas chez un coronarien connu, mais qu'il s'agit d'un diagnostic, d'une recherche de coronaropathie, on peut se contenter de faire une scintigraphie de stress seule en première intention, et si elle est normale, une perfusion myocardique normale, l'acquisition de repos complémentaire ne sera pas nécessaire, et on aura pu écarter une coronaropathie pour 1,5 millisieverts. Alors, à titre de comparaison, l'irradiation naturelle moyenne en France est de 2,4 millisieverts, qui est variable selon les régions, évidemment. Donc, si vous quittez Bordeaux pour aller vous installer en Bretagne, vous allez subir l'irradiation de plusieurs scintigraphies myocardiques. Voilà. Donc, en conclusion, la scintigraphie de perfusion myocardique, c'est une technique qui a été largement validée. Qui permet donc une évaluation fonctionnelle de la perfusion myocardique dans des conditions physiologiques. Donc on peut réaliser un effort vrai. On peut aussi évaluer l'efficacité d'un traitement médicamenteux, donc anti-coronarien. C'est ça qui est très important. Voilà, donc la rapidité par ces caméras permet de s'affranchir de certains artefacts, ou de mieux les contrôler, et surtout de limiter l'irradiation. Je vous remercie.
Et je vais essayer de vous montrer à travers les quelques diapositives que je vais vous présenter, d'une part quelles sont les indications officielles et officieuses de ces deux examens. Ça, c'est un document que je vous ai écrit dans le livret qu'on vous a remis. Deuxièmement, quelque chose que j'estime être assez important, c'est connaître les contraintes techniques. Ça va être relativement bref. parce que ce sont des examens qui ont des contraintes techniques. Et troisièmement, je vais surtout insister sur quelques exemples en vous montrant de la pathologie cardiaque telle que vous pouvez en voir dans vos pratiques médicales. Alors on va commencer par les indications de ces deux examens. Les indications ont déjà été posées par des conférences de consensus réunissant les sociétés savantes de cardiologie et de radiologie et ont été publiées en octobre 2006 dans le journal du Collège américain de cardiologie. Il y a deux articles que je vous cite, parce que c'est aussi mon boulot de lire pour vous, du moins dans ce domaine. C'est celui-ci qui me semble important à connaître et un qui va venir tout à l'heure. On peut résumer ces indications qui ont été regroupées en fonction des modalités, c'est-à-dire scanner et IRM, et des pathologies cardiaques dans ce papier, où les auteurs disaient, dans telle pathologie, le scanner est approprié, le scanner est inapproprié, ou on ne sait pas trop. Et donc je vais vous présenter ce qui a été jugé comme approprié. Tout d'abord, le scanner, il faut savoir que c'est une technique d'analyse morphologique. C'est très morphologique, le scanner. Et donc, on s'en sert pour étudier la morphologie cardiaque et les artères coronaires. En ce qui concerne les coronaires, et je parle sous l'œil vigilant de Pierre Coste, les indications du scanner, c'est la détection de la maladie coronarienne chez des patients qui sont symptomatiques et chez lesquels on ne peut pas faire d'autres tests ou chez lesquels les autres tests sont difficilement interprétables. Une coronarographie mal interprétable, une montée d'enzymes, on ne sait pas trop, on est à la limite, un ECG douteux, etc. En ce qui concerne maintenant la morphologie, vraiment, là où on a vraiment besoin d'une analyse relativement fine des structures cardiaques, c'est toutes les cardiopathies congénitales, qui est peut-être un sujet qui est relativement spécialisé, mais c'est la déviance qu'on a à Aulévêque. Troisième grand cadre d'indication du scanner, eh bien, ce sont toutes les non-indications ou les limites de l'IRM chez les patients claustrophobes, chez les patients qui ont pacemaker, qu'on ne peut pas rentrer dans l'IRM. On proposera volontiers de réaliser un scanner pour essayer d'évaluer même la fonction cardiaque, même si on n'est pas très très bon au scanner, on y arrive, enfin l'échographie le fait mieux, pour évaluer le péricarde par exemple ou l'anatomie des veines pulmonaires dans certains cas d'électrophysiologie. Ça, c'est pour le scanner, ce sont les indications qui sont jugées officiellement appropriées. En ce qui concerne l'IRM, l'IRM, c'est une technique qui est fonctionnelle et qui a l'avantage de visualiser la nécrose myocardique, ou du moins la fibrose myocardique. Pour cette raison, l'IRM est indiqué également dans la détection de la maladie athéromateuse coronarienne, dans le cadre de l'ischémie, dans les mêmes conditions que le scanner, c'est-à-dire que on ne peut pas soumettre le patient à une épreuve d'effort ou que l'électrocardiogramme est ininterprétable ou encore qu'il y a une sténose qui a été découverte à la coronarographie et dont on veut savoir l'importance, est-ce qu'elle est significative ou pas. L'IRM peut également intervenir pour étudier la structure et la fonction et d'ailleurs c'est actuellement la référence, le gold standard en ce qui concerne la fonction ventriculaire. L'IRM permet d'étudier la fonction valvulaire, en particulier des valves qui sont difficilement analysables à l'échographie, comme la valve pulmonaire. On est bon également en rétrécissement ou en insuffisance aortique, mais l'échographie est bien meilleure. L'IRM permet d'étudier la structure de la paroi ventriculaire, et ça, il y a peu de techniques qui le permettent. Et cela a un intérêt dans les myocardites ou dans les myocardiopathies infiltratives, qui sont des pathologies assez rares, que l'on peut rencontrer par exemple dans les maladies de Wegener, les sarcoïdoses, les amyloses. Autre indication, la caractérisation de masse cardiaque, les tumeurs et ou les thrombus intracavitaires, et l'analyse du péricarde. J'inclus le péricarde dans le cœur. Et puis quelque chose de extrêmement important actuellement en clinique, c'est l'analyse de la nécrose myocardique dans les suites d'un infarctus et éventuellement de la viabilité cardiaque. Est-ce que, par exemple, tel segment ou telle région du cœur qui a été nécrosée reste viable? En d'autres termes, y a-t-il un intérêt à ponter, par exemple, l'artère coronaire qui alimente cette région? Le deuxième article que je veux vous citer, si vous vous intéressez à ça, a été publié par Marolt dans European Heart Journal en 2005. Et c'est un article qui résume la physiopathologie de la prise de contraste à l'IRM dans la pathologie cardiaque et tous les aspects de ces prises de contraste. C'est un article dont on se sert tous les jours pour faire les diagnostics IRM que l'on nous demande. Alors, quelques précisions techniques et quelques modalités tout d'abord. Avec le scanner présente quelques limites. On est très gêné parce qu'on fait des acquisitions synchronisées à l'électrocardiogramme. Les patients qui présentent des troubles du rythme auront un examen de qualité médiocre. Les patients qui ne peuvent tenir leur apnée au-delà de 10-12 secondes auront un examen médiocre. Les patients qui présentent, comme celui-ci, des calcifications coronaires extensives auront peut-être un bon examen, mais l'analyse d'éventuelles sténoses sera gênée par ces calcifications. Parlons de l'irradiation. L'irradiation du scanner est un peu inférieure à celle que vous a signalé Pierre Coste. On fait des scanners à des bébés de quelques jours. Et lorsqu'on fait des acquisitions prospectives, synchronisées à l'électrocardiogramme mais prospectives, eh bien on a des doses qui correspondent à 1 ou 2 millisieverts, c'est-à-dire l'irradiation de 6 mois ou d'un an. Effectivement, lorsqu'on fait chez des personnes un peu plus âgées, de 70 ans, des scanners rétrospectifs, on a des doses qui sont plutôt de 6 à 10 millisieverts actuellement, en utilisant les techniques de modulation de dose. Mais 6 à 10 millisieverts à 70 ans, les gens n'ont pas le temps de développer, a priori, leur pathologie radio-induite. La limite du scanner, c'est la résolution temporelle. On est autour de 125 millisecondes, une image en 125 millisecondes. Comme on est très gêné par un rythme cardiaque élevé, voire des troubles du rythme, eh bien, en l'absence de contre-indication, on injectera à vos patients des bêta-bloquants pour les ralentir, pour les régulariser, et puis on leur injectera éventuellement des dérivés nitrés, on leur chitera sous la langue plutôt des dérivés nitrés pour dilater les artères coronaires et avoir de jolies images. Ce qu'il faut savoir, c'est que, évidemment, on injecte de l'iode au scanner, l'iode à forte concentration, et donc également à fort débit. Il nous faut un état veineux à peu près satisfaisant. On ne pique pas ou rarement au dos de la main. Il nous faut une fonction rénale idoine, supérieure à 30 ml par seconde. Et si le patient a présenté une allergie à l'injection d'iode, il faut savoir à quel produit. On n'est pas allergique à l'iode, on est allergique aux excipients qui entourent les molécules d'iode. En ce qui concerne l'IRM, les limites sont un petit peu les mêmes en ce qui concerne le rythme cardiaque, c'est-à-dire que des patients en fibrillation atriale ou qui présentent des troubles du rythme vont avoir des examens de moins bonne qualité. Les patients qui sont incapables de tenir une apnée, voire même plusieurs apnées, parce que l'IRM cardiaque est un examen long, on a besoin de plusieurs apnées de 12 à 30 secondes, c'est également une limite de l'examen. Évidemment, une contre-indication formelle qui va bientôt tomber, c'est la présence d'un stimulateur cardiaque. Elle va bientôt tomber parce que les fabricants s'attachent à faire du matériel MR compatible. L'IRM a une très très bonne résolution temporelle, mais une résolution spatiale qui est encore médiocre. Et pour cette raison, on ne voit pas bien les artères coronaires à l'IRM. On ne peut pas recommander cette technique pour rechercher des sténoses. C'est un examen qui est long, entre une demi-heure et trois quarts d'heure, dans un tunnel, dans un aimant. Certains d'entre vous ont certainement passé des IRM. Chez des patients claustrophobes, ce n'est pas toujours très facile. Donc si vous demandez une IRM, n'hésitez pas à prescrire un peu d'Atarax ou de Tranxène pour votre patient. Notre produit de contraste, c'est du gadolinium, qui est une terre rare, ça n'est pas de l'iode. C'est un produit à élimination hépatique qui n'est pas contre-indiqué dans les insuffisances rénales. Même si depuis quelques années, quelques cas de fibrose néphrogénique systémique sont apparus avec ce produit chez des patients en insuffisance rénale, il existe certaines molécules, dont celle dont on se sert à Olévèque, dites CAGE, qui emprisonnent le gadolinium et pour lesquelles aucun cas de fibrose néphrogénique n'a été décrit. Enfin, si vous êtes amené à nous demander des examens, pitié, pitié, donnez-nous des indications et un minimum d'histoire clinique parce qu'on adapte nos protocoles à ce que vous recherchez et que sans vous, on est aveugle. Alors, quelques résultats. On va assez vite, j'espère que les images passent. On va assez vite passé sur le coroscanner et sur les indications. Vous avez tous vu des images en trois dimensions, en volume rendering de cœur sur lesquels on voit parfaitement bien le tronc commun, l'interventriculaire antérieur, la circonflexe, la coronaire droite par exemple ici, y compris la marginale du bord droit. On peut faire tourner ce volume et l'analyser, on peut visualiser ces artères façon angiographie. On peut dérouler ces artères, ici c'est une coronaire droite que l'on voit jusqu'à l'interventriculaire postérieur, jusqu'à la croix des sillons en arrière. Ici c'est une interventriculaire antérieure, ici c'est une circonflexe. On les voit très bien ces artères coronaires, et lorsque le scanner est bien fait et que les artères coronaires sont normales, il est inutile de réaliser une coronarographie. La valeur prédictive négative d'un coroscanner bien fait et normale est excellente, elle est voisine de 99%. A l'inverse, dans certains cas, eh bien, vous verrez chez des patients des rétrécissements, comme ici une sténose à l'origine de l'interventriculaire antérieur, ici une autre sténose sur l'interventriculaire antérieur, et puis ici on peut se demander s'il n'y a pas une petite sténose sur une branche de la coronaire droite. On les voit, ces sténoses, on peut les quantifier. On voit également des sténoses ostiales, comme ici sur cette coronaire droite. Vous voyez la réduction du calibre de la lumière qui était liée à cette sténose ostiale qui peut échapper parfois à la coronarographie de temps en temps. Alors l'analyse de ces artères coronaires, eh bien, c'est comme pour n'importe quelle artère. On va réaliser des reconstructions de l'artère coronaire en essayant de l'allonger. La sténose que je vous montre ici est ici. Et puis sur cette artère allongée, on va faire des coupes perpendiculaires dans un segment de référence, dans le segment sténosé, et on fait un rapport de surface ou un rapport de diamètre. Quelque chose qui est très à la mode sur le scanner, le coroscanner, c'est ce qu'on appelle le triple rule-out, qui est ni plus ni moins qu'une technique d'injection un petit peu particulière qui permet d'éliminer chez des patients qui ont des douleurs thoraciques un petit peu atypiques avec un ECG non concluant, des enzymes, on ne sait pas, une douleur bizarre, qui permet d'éliminer trois diagnostics intéressants que sont le syndrome coronarien aigu par la sténose artérielle coronaire, la dissection aortique, l'embolie pulmonaire. Ça, ce sont des examens que le SAU nous demande deux ou trois fois par semaine. Alors on quitte la pathologie des coronaires, la pathologie acquise, pour regarder ici des pathologies congénitales. Le scanner est une technique anatomique réellement. Regardez ici une anomalie de naissance des artères coronaires. La coronaire droite qui devrait naître ici, là, sur le flanc droit de l'aorte, provient de l'artère coronaire gauche. On la voit également ici. Elle présente un petit trajet interaortico-pulmonaire qui peut être à l'origine de douleurs thoraciques lors de l'augmentation de la pression dans ces deux vaisseaux à l'exercice. Donc on peut voir les artères coronaires, on peut voir des ponts musculaires. Évidemment, on peut également contrôler des stents, un stent sur l'interventriculaire antérieur, ici, ici, avant sa bifurcation, ici, en coupe perpendiculaire. Alors c'est là peut-être que on va pleurer les volets. Non, ça se voit. Regardez ce stent ici, sur une artère coronaire qui présente à l'intérieur des vides de signal, et sur des coupes successives on voit très bien cette prolifération intimale contre le stent qui témoigne d'une prolifération intimale dans le stent. On peut évaluer la resténose intrastent. Ça, ce sont des images que je dois à un confrère du Centre cardiologique du Nord à Paris. Contrôle de pontage, pourquoi pas. Ce patient a été ponté quatre fois, enfin quatre pontages au cours de la même intervention. Vous voyez ici un pontage entre l'artère mammaire interne droite et la marginale du bord gauche, c'est celui-là. Un pontage entre l'aorte et la coronaire droite, ici. Un pontage entre l'artère mammaire interne gauche et l'interventriculaire antérieur, il est ici, hop, on le suit et il rejoint le sillon interventriculaire, et un pontage entre l'aorte ici et l'artère circonflexe. On est capable de dire si ces pontages sont perméables. On va quitter le scanner et on va parler de l'IRM, en commençant par la pathologie ischémique et l'infarctus du myocarde. Ça, c'est un patient qui a fait un infarctus il y a déjà quelque temps, puisque, comme vous pouvez le voir sur ces coupes petit axe qui vont de la base du cœur à l'apex, eh bien, on a déjà un amincissement pariétal dans la zone de l'infarctus et une akinésie, cette zone infarcie ne s'épaissit plus. L'aspect caractéristique, et c'est comme ça qu'on fait les diagnostics d'infarctus à l'IRM, c'est une prise de contraste du gadolinium, qui est un agent de contraste extracellulaire. Donc, lors de l'infarctus, eh bien, il y a évidemment une mort cellulaire, une lyse des membranes cellulaires, et l'espace intracellulaire devient extracellulaire. Ma flèche ne veut plus marcher, je vais vous la montrer avec ça. Et on a une prise de contraste ici, en blanc, qui est transmurale, qui peut être ici sous-endocardique, elle intéresse la totalité de la paroi, y compris la paroi ventriculaire droite, c'est un territoire coronaire droit. Cette prise de contraste, elle est toujours dans l'infarctus sous-endocardique, c'est la zone la plus fragile. Elle est transmurale ici, ici elle n'est pas transmurale, elle est à peu près de la moitié, 50% de l'épaisseur pariétale. Mais ici, au niveau du septum, c'est-à-dire un territoire IVA, apparaît une autre lésion, du noir dans la prise de contraste. C'est que le contraste n'y arrive même pas, ce qui témoigne d'une micro-obstruction vasculaire. Chez un autre patient ici, peut-être que ma flèche est revenue, chez un autre patient ici, vous verrez une séquelle d'infarctus très large, énorme, avec un volumineux thrombus contre la paroi ventriculaire gauche. Toujours dans la pathologie ischémique, comment évaluer le caractère significatif ou non d'une sténose, comment rechercher des sténoses ou des resténoses? Eh bien, on peut étudier la réserve coronaire en essayant de démasquer les conséquences d'une sténose sur la contraction, c'est le stress à la dobutamine forte dose, ou sur la perfusion, c'est le stress à l'adénosine, qui est un agent vasodilatateur. Deux protocoles que nous réalisons en collaboration avec Édouard Gerbeau, qui est PH chez Pierre Coste. Alors, par exemple, l'adénosine, puisque c'est sur celui-ci qu'on travaille, vous avez ici une boucle dans le temps où, lors de l'injection du produit de contraste, vous voyez celui-ci arriver dans le ventricule droit. Forcément, on l'injecte par une veine antébrachiale. Il arrive dans le ventricule droit, il passe dans la circulation pulmonaire, il opacifie la lumière ventriculaire gauche, et puis en sortant de l'aorte, il passe dans les coronaires et opacifie la paroi, rehausse la paroi. Et vous voyez qu'au repos, ce patient présente un rehaussement absolument homogène. Alors que lorsque on injecte de l'adénosine, ce patient présente ici, dans la paroi antérieure, un défect qui est sous-endocardique. Et je pense qu'il en a un autre ici dans le septum. Défect sous-endocardique qui témoigne d'une sténose significative démasquée par l'adénosine dans le territoire de l'interventriculaire antérieur. Ça, c'est une autre façon de faire que la scintigraphie. On évalue cette méthode à la scintigraphie d'Eric. Autre question, aussi bien dans l'infarctus aigu que dans l'infarctus chronique, quelle est la réserve fonctionnelle du segment nécrosé? Est-il utile de réaliser un pontage chez un patient? On peut répondre à la question en réalisant un stress à l'adénosine, à la dobutamine faible dose. Ici, vous avez un infarctus de l'apex ventriculaire gauche, et on ne voit rien vraiment avec ces volets, je regrette, et ici un infarctus de la paroi inférieure du ventricule gauche au niveau de la base. Je peux déjà vous donner la réponse, celui-là n'est pas transmural, loin de là, il est juste sous-endocardique, il y aura une réserve fonctionnelle, celui-là est transmural, il n'y aura pas de réserve fonctionnelle. Voilà ce que donnent les images de ciné-IRM, c'est-à-dire des acquisitions dans le temps. Vous voyez à l'apex du ventricule gauche, ici, la nécrose transmurale entraîne une akinésie, voire une dyskinésie de cette paroi. Ici, au niveau de la base du ventricule, eh bien, la paroi ne s'épaissit pas non plus, par exemple, si vous la comparez à une paroi antérieure ou la paroi inférieure dans la région apicale. L'épaississement manque, on a une akinésie. On regarde le comportement de ces deux myocardes à l'injection de faible dose de dobutamine. C'est un travail qu'on avait également fait avec l'équipe de M. Coste il y a quelques mois. Chez le patient qui a un infarctus transmural, le stress inotrope positif n'améliore nullement la fonction contractile de l'apex. Alors que chez le patient qui a une nécrose de la paroi inférieure, lors de l'injection d'adénosine, eh bien, il réapparaît une cinétique, une contractilité de cette paroi inférieure. Celui-là, il gagnera à être ponté parce qu'il a une réserve fonctionnelle. Quittons la pathologie ischémique pour parler un petit peu des myocardites. La myocardite, c'était un diagnostic hypothétique avant l'apparition de l'IRM. Maintenant, on la voit. Alors, on a des contextes. On a des patients qui ont un syndrome coronarien aigu avec une petite montée de troponine et puis surtout un épisode infectieux préalable. Mais ce qu'on voit maintenant à l'IRM, eh bien, repose sur deux types de séquences. Les séquences pondérées en T2, vous vous rappelez, quand vous avez fait vos études, on vous a dit que ça faisait apparaître l'eau en blanc, le T2, et donc l'œdème en blanc. Et regardez la paroi ventriculaire gauche, ici, la paroi inférieure, ça c'est le foie, elle est toute blanche en T2 par rapport à la paroi antérieure. La deuxième technique, c'est l'injection de gadolinium avec là aussi un rehaussement parce que là aussi, il y a de la nécrose cellulaire, un peu de fibrose. Et regardez, il est ici, c'est le même patient. Et ce rehaussement, il est très différent parce qu'il est sous-épicardique. Il n'est jamais sous-endocardique. Il est sous-épicardique. Et quand on a beaucoup de chance, il est non seulement sous-épicardique, comme ici, ça c'est des séquences haute résolution, mais il est sous-épicardique et dans plusieurs territoires coronaires. Alors que l'infarctus, en général, est dans un seul territoire. Voilà tous ces patients, ici encore, sous la paroi latérale, sous-épicardique du ventricule gauche. C'est le même patient, un territoire circonflexe, ici, un territoire IVA, ici. Ce sont des prises de contrast sous-épicardiques, ça y est, c'est une myocardite. Un autre cas de syndrome coronarien aigu, c'est ce que l'on appelle le syndrome de Takotsubo, la ballonisation apicale transitoire du ventricule gauche. C'est un stress adrénergique chez ces patients qui conduit à une sidération temporaire de tout l'apex ventriculaire gauche. Ça y est, j'ai retrouvé une flèche. De tout l'apex ventriculaire gauche qui disparaît au bout de quelques semaines. Il y a une montée de troponine, il y a des anomalies évocatrices à l'électrocardiogramme. Mais ce qui est important, ce n'est pas d'en faire le diagnostic, c'est surtout d'éliminer un infarctus. Dans ces syndromes, il n'y a jamais de prise de contraste, il n'y a jamais de nécrose réelle. Alors on peut partir vers des choses un peu plus rares et passer un peu plus vite. La dysplasie arythmogène du ventricule droit, qui est un trouble rythmique grave, heureusement rare, mais qui nécessite la mise en place d'un défibrillateur implantable. On a des critères diagnostiques que sont l'infiltration graisseuse, c'est le blanc que vous voyez ici dans la paroi ventriculaire droite, l'infiltration fibreuse, le ventricule gauche il est là, le ventricule droit il est là, regardez la prise de contraste importante de la paroi, le muscle normal est remplacé par de la fibre, la dilatation du ventricule droit, ce ventricule droit est énorme, l'altération cinétique, regardez ici, vous avez une dyskinésie, c'est-à-dire que la paroi antérieure, qui est représentée ici, en systole, eh bien, elle ne devrait pas gonfler comme ça, elle devrait se contracter, vous avez une vraie dyskinésie. Et tout ça, c'était des critères de dysplasie arythmogène jusqu'en 2010, et maintenant, les dernières études n'en retiennent que deux, la dilatation télédiastolique du ventricule droit et la dyskinésie ou l'akinésie localisée. Alors les myocardiopathies, on va passer vite, myocardiopathie dilatée, l'idée de l'IRM c'est de faire un diagnostic éventuellement étiologique. Vous voyez que sans vous on est perdu parce que ce patient qui a une myocardiopathie dilatée sur un VIH n'a aucune anomalie à l'IRM, on pourrait dire tiens c'est une myoque primitive, pas du tout, c'était dans un contexte de VIH. On nous demande souvent d'éliminer encore une fois, une pathologie ischémique. Regardez ce patient qui a un ventricule gauche extrêmement fatigué. Eh bien, il a une prise de contraste de toute sa paroi ventriculaire, territoire IVA étendu, une nécrose massive, ici en petit axe, ici en quatre cavités. Les myocardiopathies hypertrophiques, elles peuvent être symétriques, un épaississement pariétal de plus de 12-13 mm, avec toujours une prise de contraste après l'injection, qui témoignent de remaniement fibreux. Elles peuvent être également asymétriques, obstructives, avec un bourrelet septal ici qui obstrue la voie d'éjection aortique, c'est une obstruction sous-valvulaire. L'image après le passage de l'équipe de M. Coste qui fait des embolisations d'artère septale, vous voyez l'amincissement du septum, et puis comme ils ont embolisé, eh bien, on a une image d'infarctus dans cette région. Des myocardiopathies hypertrophiques peuvent être médioventriculaires, elles peuvent être pseudo-tumorales, ici c'est toute la paroi antérieure, elles peuvent être volontiers apicales avec un aspect en as de pic, et toujours, toujours une prise de contraste plus ou moins importante témoignant de fibrose. L'IRM permet de mesurer la masse ventriculaire gauche, et donc de suivre l'évolution des patients, et d'évaluer le pourcentage de fibrose. Alors l'hémochromatose, la localisation au niveau du myocarde de dépôt ferreux s'accompagne d'une diminution du temps du T2 étoile. On a des ABAC qui nous permettent de dire s'il y a une surcharge férique du cœur. En même temps, on vous fait pour le même prix le foie. Ça, c'est bien connu. Les myocardiopathies restrictives, on va faire vite. Vous voyez ce cœur qui est très fatigué, qui n'en peut plus, qui n'arrive pas à battre ce ventricule gauche. Eh bien, il s'agissait d'une amylose. On peut retrouver le même type d'aspect dans la sarcoïdose, dans la maladie de Hézut, dans la maladie de Wegener. On ne voit rien à sarcoïdose, il y a une prise de contraste ici, ni sous endocardique, ni sous épicardique, mais mésopariétale qu'on retrouve également ici. Allez, je crois que voici une péricardite constrictive. On a très peu parlé de péricarde. Le diagnostic est fait sur la dilatation, sur l'épaississement pardon, du péricarde au-delà de 4 mm, sur un aspect tubulisé du ventricule droit, c'est un tube, et sur une dilatation de l'atrium droit et de la veine cave. Et puis sur un mouvement très bizarre du septum interventriculaire, il est paradoxal. En protodiastole, il se déplace vers le ventricule gauche, ce qui témoigne des pressions hautes qui règnent dans le ventricule droit. Évidemment, on peut trouver des cas d'inflammation péricardique. Alors je crois que c'est mon dernier cas qui allie un petit peu tout. Je l'ai gardé pour la fin parce que c'est compliqué, la pathologie congénitale. Une maladie de Fallot qui met en évidence ici un anévrisme infandibulaire du ventricule droit. C'est un patient qui a été opéré, hein. Ils sont opérés à un an. Une augmentation très importante des volumes télédiastoliques et télésystoliques du ventricule droit. Un anévrisme dyskinétique de l'infandibulum, zone d'abord chirurgicale, vous voyez, il fait une bouffiole lors de la systole. Une sténose de l'artère pulmonaire, on voit ici le G, et on voit ici, juste au-dessus de ma petite main, la sténose artérielle. On nous demande à l'IRM de vérifier, avant de réopérer ces patients, les adhérences post-sternotomie, parce qu'ils vont avoir une sternotomie médiane à nouveau. L'indication opératoire est posée sur le volume télédiastolique, le volume télésystolique, et également sur l'importance de l'insuffisance pulmonaire. J'ai fini, monsieur le modérateur, c'est promis. Voici des techniques d'IRM de flux à travers la valve pulmonaire. Ici, ce qui est blanc est antérograde, ce qui est noir est rétrograde, ce qui nous permet de calculer un volume antérograde, un volume rétrograde, et donc ce que l'on appelle une fraction de régurgitation. Au-delà de 50%, il y a une indication chirurgicale.